Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on est bien content de vous retrouver cette semaine pour discuter d'astronomie avec nous. Aujourd'hui dans le studio, on est quatre, Axel, Pierrick, Fred et une invitée, Silex.
Salut, salut.
Bonjour à tous.
Et bonjour à toutes.
Alors on vous rappelle que vous pouvez toujours écouter toutes les émissions depuis le début sur le site de RDWA, rdwa.fr, dans les émissions thématiques. Et aujourd'hui, c'est le 99e épisode. Alors, ça fait quelque temps qu'on vous l'annonce. On vous a dit qu'on arrêtait l'émission à la 100e. Donc, vous voyez qu'il n'aura... En fait, aujourd'hui, c'est la dernière émission, on va dire, classique. Puisque la 100e sera une émission spéciale, un débat sur la science, qu'on vous diffusera pour cette fin d'année. Voilà, sur ce podcast, vous avez aussi toutes les photos du ciel prises par Axel et puis aussi par Rémi. Il y a... de cela quelques temps maintenant, mais de bien belles photos du ciel qui vous montrent aussi tout ce qu'on peut observer. Voilà pour cette affaire. On vous mentionne aussi que du coup, le jour où l'émission s'arrêtera, vous pourrez retrouver toujours le podcast, mais cette fois, il faudra aller dans les archives de RDWA. On ne sera plus dans les émissions thématiques, on sera dans les archives, relégués dans les oubliettes de l'histoire. Voilà pour cette petite introduction. Alors, le sommaire de ce 99e épisode, ça va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir, voir un peu les constellations qui sont visibles en ce moment. Ensuite, ce sera la rubrique Abrac. Axel, cette semaine, tu vas nous parler du GEPAN.
Ouais, cet organisme qui étudie les signalements d'OVNI en France.
Tout un programme. Ensuite, ce sera donc la rubrique Nouvel Oeil avec notre invité Silex, qui va nous raconter un petit peu son rapport au ciel et qui viendra aussi poser un texte, puisque Silex est rappeuse.
Ouais, avec plaisir.
Et puis après la pause musicale, ce sera la chronique spatiale de Pierrick, qui nous parlera de la rencontre Apollo-Soyouz.
Et oui, tout à fait. Ce grand moment dans l'histoire.
De l'histoire spatiale.
Tout à fait.
Et on terminera avec la chronique astrale, si on déborde pas trop dans tous les autres rubriques. Où cette semaine, je vous parlerai de Kepler, hein, Johannes Kepler, et de son petit texte, le premier livre de science-fiction de toute l'histoire, Le Songe. Voilà pour ce sommaire. Alors, on attaque avec le ciel ce soir. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? On est au mois de décembre, on approche du solstice d'hiver, donc on est dans les journées les plus courtes de l'année. Donc, il fait nuit très tôt. Et quand le soleil se couche, qu'est-ce qu'on voit? Et bien, si on regarde un petit peu vers le nord, on voit une grande ours qui rase un peu l'horizon. On a une zone circumpolaire qui est toujours bien présente avec Cassiopée, avec le dragon. Et le dragon qui est bien visible avec sa tête qui repart vers l'ouest en direction de Vega et du triangle d'été qui se couche en début de soirée. On est quand même en hiver. Au bout d'un moment, ce triangle d'été, il faut bien qu'il finisse par disparaître. Par contre, on avait déjà parlé en ce moment, hein, une étoile très 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 brillante et remarquable dans le ciel du soir, c'est Capella, dans le Cocher, qui annonce un peu le bal du ciel qui se lève derrière, avec très vite Andromède, qui va commencer à émerger à l'est. Je veux dire Orion.
Oui, Andromède est déjà bien haute.
Orion, ouais. Oui. Le carré de Pégase, j'y viens. Lui, il est déjà là. Mais on a effectivement donc à l'est Orion qui se lève. Effectivement, si on regarde au zénith quasiment, en tout cas presque au zénith, un petit peu vers l'ouest déjà, on a le carré de Pégase. Le carré de Pégase avec les Poissons. Et puis sous le carré de Pégase, on a quand même Saturne.
Et ouais. Qui est plein sud.
Qui est plein sud.
Ouais. Sur l'axe nord-sud.
C'est
ça.
Ouais. Méridien.
Ouais. Au moment de la tombée de la nuit.
Et qui ensuite va disparaître. Mais il y a quand même le temps largement de l'observer, hein, si on le souhaite. Toujours avec ses anneaux dans le plan de visée. Donc pas très visible en ce moment. Mais voilà pour cette petite partie du ciel. Quand on prolonge le carré de Pégase, on tombe sur la constellation d'Andromède. Et puis cette tache floue qui est la grande galaxie d'Andromède, qui est la seule galaxie visible à l'œil nu dans le ciel. Donc voilà, on continue... De l'hémisphère nord, tout à fait. Monsieur, on vous renvoie aux émissions.
on voit les
l'observatoire des Maquets. Ouais. Quand ensuite, la nuit va s'avancer, Orion va se lever. Moi, bon, elle va jamais atteindre de grande hauteur, mais va passer au sud. Et puis derrière arrive eh bien, le début du zodiaque hein, avec les béliers puis les gémeaux. Et là, sous les gémeaux, on a Jupiter, qui est vraiment très 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 brillante aussi en ce moment dans le ciel, qui est visible une grande partie de la nuit. Et une belle observation à faire.
Au petit matin aussi, on la voit encore.
Oui, parce qu'autant Saturne se couche vers 1h, Jupiter elle est là vraiment jusqu'au matin.
Jupiter est là quasiment toute la nuit, ouais. Et dans son voisinage, ben, on a aussi évidemment le taureau avec les Pléiades, cet amas ouvert dont on a déjà moult fois parlé. Et puis, si on attend encore un petit peu, eh bien, on a le lion qui va se lever. Hein, qui est, donc là, la grande ours va prendre de la hauteur. Au début de nuit, elle rase l'horizon et ensuite elle va tourner autour de la polaire, monter dans le ciel. Et donc, sous la grande ours, on a le grand lion. Voilà un peu pour ce ciel en ce moment.
Très bien.
Merci. Sympa.
Ouais. Au matin, on avait Mercure, non ?
Alors, je ne l'ai pas vu, semaines. Mais effectivement, il y avait une histoire de... Je ne peux pas te dire. Ouais, je sais pas.
Je l'ai pas observé non plus.
Je l'ai pas vu.
C'est stylé les images que ça fait.
Parce que j'utilise Stellarium en même temps que je vous invite à jeter un œil à ce logiciel ou à cette application sur téléphone, mais c'est aussi un logiciel sur ordi, c'est gratuit. Une carte du ciel
en temps réel.
Perpétuelle, ouais, en temps réel. On peut choisir la date, l'heure, le lieu d'observation. Et du coup, se rendre compte un peu de ce qu'on peut voir.
Et on peut même zoomer, et c'est comme observer au télescope. Hein. On peut zoomer sur des objets.
Ah ouais,
wow. Il y a une banque d'images, en fait.
Donc, c'est un peu Google Earth, mais dans l'autre sens. On peut zoomer dans le ciel. Ouais.
Et j'étais dessus là pour regarder Mercure, effectivement. On a encore un petit peu entre 7h30 et 8h, vraiment juste avant que le soleil ne se lève à l'est, à côté de la Vierge. Ouais.
Merci, Axel. La petite Mercure. Voilà pour ce ciel. Donc on va passer à la rubrique suivante, et donc à la rubrique Abrac. Cette semaine, Axel, tu vas nous parler du GEPAN et de surveillance des ovnis dans le ciel.
Oui, et je vais commencer par faire un remerciement, puisque j'ai été inspiré pour cette chronique par Célia Pelluet, à qui je laisserai le mot de la fin. Célia Pelluet, c'est une des chroniqueuses de l'émission La Dernière sur Radio Nova. Au passage, si vous ne connaissez pas La Dernière, et vous êtes comme moi un méchant radicalo, antifacho, wokisto-gauchiste, ben, je vous conseille très vivement d'y jeter une oreille. Bref, dans cette chronique du 30 novembre, elle parlait d'OVNI, et par là même du GEPAN. Et j'ai remarqué qu'on n'avait jamais consacré un moment pour décrire en détail le GEPAN et son travail. Même si on a dû le mentionner quelques fois, je pense à la 22e émission où on avait parlé d'OVNI.
Oui.
Alors je vais commencer par une présentation de cet organisme, a priori unique au monde. Il a été créé en 1977 par le CNES en tant que GEPAN, G-E-P-A-N, le groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En 1988, il deviendra le CEPRA, le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Avant de retrouver en 2005 son nom d'origine, enfin au moins phonétiquement, puisque le GEPAN gagne un I pour information. C'est donc maintenant le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ah oui, j'ai dit unique au monde, parce que dans d'autres pays aussi, il y a des gens qui étudient les ovnis, mais qui dépendent souvent de l'armée. Alors c'est soit ils dépendent de l'armée, soit l'État s'en contrefou, et du coup c'est des assos qui vont assurer ce rôle. Mais en France, ça dépend uniquement du CNES, donc plutôt du monde de la recherche, le Centre National d'Études Spatiales, le CNES. Dernier point sémantique, même si c'est presque synonyme, on préfère aujourd'hui parler de PAN, plutôt que d'OVNI. Alors un OVNI, je pense que tout le monde connaît l'acronyme, l'objet volant non identifié, mais comme c'est devenu très connoté à la notion d'extraterrestre et de soucoupe volante, on préfère le mot PAN pour phénomène aéronautique non identifié, ou aérospatial non identifié. Alors, qui travaille au GEPAN ? Actuellement, c'est 3 employés, il y en a eu plus par le passé, ou moins aussi à d'autres moments, et une 15aine d'enquêteurs et d'enquêtrices bénévoles, répartis sur tout le territoire et qui bénéficient d'une formation de quelques jours par an dans les locaux du CNES à Toulouse. Et comment ils procèdent pour enquêter sur les PAN ? Eh bien, tout commence toujours avec un témoignage. Eux, ils ne sont pas force de recherche, ils ne vont pas entendre parler de quelque chose et aller enquêter. Donc, ça part toujours d'un témoignage de quelqu'un, de de vous, de moi, de Francis Cabrel, de Claude Verrillon. Peu importe, on peut les contacter.
Jean-Luc Bourret,
oui. On peut les contacter par mail ou par leur site internet et leur faire part d'une observation que nous ne nous expliquons pas. Voilà, vous voyez un truc bizarre dans le ciel, vous pouvez les contacter. Ils reçoivent ainsi près de 800 signalements chaque année, dont une vingtaine de canulars, bon, qui donnent ensuite lieu à 200 enquêtes. Et oui, parce que souvent, les témoignages sont trop vagues, les descriptions trop limitées, et c'est impossible de s'appuyer sur quoi que ce soit pour travailler.
Ou ça correspond à un phénomène, à une fusée qui décolle ou...
Non, pas encore. Non, c'est vraiment les données apportées sont trop mauvaise qualité pour entamer une enquête.
Ah ouais.
Y a des choses qu'ils excluent comme ça aussi. Ils prennent les témoignages que de direct. Si tu dis « Ah, j'ai un ami qui a vu ça », non, ça ne marche pas. Il faut que tu dises à ton ami « Contacte le GEPAN toi-même ». Voilà. Ils ne prennent pas non plus les vidéos ou les photos seules, sans témoignage.
Ah ouais, d'accord.
Ou par exemple, quelqu'un qui n'a pas vu quelque chose, qui a fait des photos pendant ses vacances, et puis qui rentre chez lui 3 semaines après, qui regarde ses photos, qui dit « Ah bah tiens, sur celle-là, il y a un truc bizarre ». Ça, ils ne prennent pas non plus, il faut qu'il y ait une observation en direct. Alors, l'accueil de votre témoignage pourra peut-être vous paraître un peu froid, très protocolaire, mais c'est voulu pour assurer des données fiables et donc exploitables. Mais cela dit, tout le monde sera cru. Personne n'est là pour vous dire que vous êtes bête, que vous hallucinez, que vous regardez trop la télé. Non, chaque témoignage sera traité avec la même méthode, du plus étonnant au plus sérieux. Ils mettent un point d'honneur à respecter les témoins. Ce que vous avez vu, c'est réel. Ils n'en douteront pas. Leur travail, c'est seulement de lever les doutes sur les explications de ce que vous avez vu. D'ailleurs, si on y pense, s'ils refusaient des témoignages, ils auraient moins de boulot. Donc ils finiraient par perdre leur poste, ce serait con. Les témoignages seront ensuite, au minimum, anonymisés. Et il y a même une ligne du questionnaire où vous pouvez demander à ce que telle ou telle partie ne soit pas rendue publique. Pour X raisons. Alors si vous témoignez via leur site, vous remarquerez qu'avant d'accéder au formulaire, ils vous proposent de vous assurer que votre observation ne correspond pas à quelque chose de déjà connu, comme tu disais, Pierrick. Mmh. Donc pour ça, ils ont déjà pas mal de ressources sur leur site. Ils proposent aussi de visiter le site Méprise du ciel, avec des tirets, méprise-du-ciel.fr, qui lui est alimenté par des passionnés, par une association. Et si rien de tout cela ne colle, vous cochez la case « Aucune correspondance avec ces phénomènes, je témoigne quand même ». Le formulaire, qui est appelé dans leur jargon le questionnaire technique, c'est quand même une quinzaine de pages avec différentes questions. Alors ça commence évidemment par « Racontez-nous librement ce que vous avez vu », un premier jet de première narration du phénomène. Puis des indications sur l'environnement, la date, l'heure, le lieu, les conditions météo, quel type de bâtiment se trouve dans le secteur, des carrières, des centrales, des éoliennes, des lignes électriques, un phare, un aéroport, un canal, un fleuve, une usine, etc. Ensuite viennent les conditions d'observation, la visibilité, la couverture nuageuse, est-ce qu'il y avait un bruit particulier, une odeur, est-ce que vous avez observé à travers une vitre, est-ce que vous portez des lunettes. Puis des questions sur vous, qui êtes-vous, que faisiez-vous à ce moment-là, quelle a été votre réaction en voyant ça, quelle a été votre première intuition, êtes-vous intéressé par les ovnis en général, que pensez-vous, ou savez-vous de la vie extraterrestre. Pour finir, vous décrirez plus en détail le phénomène, sa position dans le ciel, son déplacement, sa couleur, sa brillance. Et bien sûr, vous pouvez agrémenter votre témoignage écrit par d'éventuelles photos, vidéos, croquis. D'ailleurs, pour les fichiers numériques, ils ont fait développer le logiciel IPACO, qui permet de lire les métadonnées, entre autres. C'est les données qui sont contenues dans les fichiers et qui donnent plein d'infos sur le matériel et les conditions de prise de vue. Dans ce logiciel, ils ont par exemple rentré les données techniques de tous les appareils photos, smartphones et caméras du monde. C'est des données techniques qui sont en général accessibles sur Internet, hein, mais il leur est arrivé de devoir louer un appareil pour l'étudier. Et grâce à IPACO, ils peuvent par exemple, en un coup d'œil, voir si la prise a été trafiquée numériquement. Voilà un peu comment ça se passe. Mais qu'est-ce qu'il devient ensuite, votre témoignage ? Et bien, quand il est reçu, il sera d'abord confronté aux données aéronautiques, astronautiques, météorologiques, ornithologiques même. En effet, le GEPAN, ils sont en lien avec tout plein de partenaires comme l'armée de l'air, l'aviation civile, les météorologues, les gendarmes, la police. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, l'enquête peut durer quelques mois, voire un peu plus. Et si aucune explication satisfaisante ne peut être apportée, à distance, on va dire, comme ça, eh bien, il est possible que des enquêteurs bénévoles vous proposent une rencontre sur le lieu d'observation. Ils seront toujours deux, parfois même accompagnés de l'enquêtrice salariée. En plus d'étudier le terrain et l'environnement, de prendre des photos, des mesures, tout ça, ils réaliseront avec vous un entretien dit cognitif pour verbaliser au mieux vos souvenirs, en tentant d'exclure les faux souvenirs. Un phénomène connu, hein, les faux souvenirs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a eu des tas de tests là-dessus. Le coup classique, c'est on fait des photos trafiquées de gens. On prend des photos d'eux, on les met avec, on va dire avec Obélix et avec le fond de Disneyland, et on leur dit « Ah, vous vous souvenez de ça ?»« Ah oui, oui, tout à fait, ah oui, je me souviens, il est arrivé par là, Obélix, il m'a fait coucou. » Je me dis « Bah non, en fait, cette photo, c'est nous qui l'avons faite. » Et des fois, alors souvent les gens disent « Ah bon, ah, c'est marrant. » Mais il y en a qui s'accrochent, et qui vraiment le souvenir s'est créé en eux. Quoi. Ils disent « Ah bon, mais non, mais je me souviens très bien qu'il est venu et qu'on a discuté de ça. » Et tu finis par leur dire « Non, mais Obélix, il n'y a rien à faire à Disneyland, c'est pas la même franchise.
Ah, » ouais, ouais.
Donc c'est vraiment pas possible. Quoi. Et il y en a qui en démentent pas. Enfin voilà, les faux souvenirs, c'est un pan de la psychologie assez intéressant. Bref, donc c'est pour ça qu'il y a cet entretien cognitif pour extraire au mieux les données de votre observation. Cet entretien et votre témoignage sera d'ailleurs vu ensuite par un psychologue. Et si avec tout ça et tout ce qu'on a dit avant, ils n'ont toujours pas trouvé une réponse satisfaisante, eh bien ça pourra passer devant leur collège d'experts qui se réunit deux ou trois fois par an et qui est composé là d'anciens pilotes d'avions, d'hélicos, des parachutistes, des spécialistes des drones, de la foudre, du plasma, ou encore des sociologues, des psychologues, des philosophes, des opticiens, des ophtalmos, des météorologues bien sûr. Voilà. À la fin de l'enquête, votre témoignage sera classé dans l'un des quatre groupes suivants. Le groupe A, pour les cas parfaitement identifiés. Le groupe B, pour les cas probablement identifiés. Là, on est à 27 et 39% pour les cas A et B. Le C, là, c'est les non identifiés par manque de données. Et c'est encore un bon tiers, 31%. Et enfin, le D, non identifié après enquête. Seulement 3% des cas. Il y a environ 1600 cas d'ailleurs qui sont archivés aujourd'hui et qui sont accessibles, parce que c'est ça aussi que veut dire le « i » qui sont rajoutés dans le nom du GEPAN, c'est que toutes les archives sont disponibles sur leur site. On peut aller lire les témoignages et les enquêtes de ces 1600 cas. Et il leur arrive bien sûr parfois de reprendre une ancienne enquête. C'est pas parce que tu es dans le cas A parfaitement identifié que peut-être un jour tu vas pas passer en C ou peut-être même en D. Peut-être que dans les 3% de classé D se trouvent des vraies observations d'extraterrestres. Personne ne peut le dire. Mais qu'est-ce qui se cache dans les cas A et B? Si vous voulez, on va jouer un peu. D'après vous, qu'est-ce que les gens signalent le plus souvent? Vos idées?
Des avions. Filantes.
Alors, des avions, ouais, c'est 20% des cas, c'est des phénomènes aéronautiques. Des avions, des hélicos, des dirigeables, des traînées d'avions, ils comptent là-dedans aussi. Tu disais, Pierrick, des étoiles filantes.
Ouais.
Des étoiles filantes, ouais, c'est 12% quand même qui sont du domaine astronomique. Donc des planètes, des gens qui ont vu des planètes, des étoiles, la Lune, le Soleil, des étoiles filantes.
Satellites ?
Les satellites, c'est à égalité. Non, c'est à égalité, c'est 12% aussi, ce qui est astronautique, satellites, fusées.
Ouais, ça rentre avec. Des comètes ?
Des comètes dans Astro, ouais. Quelques autres idées ?
Des phares de bagnole, des...
Alors ça, ouais, c'est peut-être dans le 5% de autres qui y a là-dedans.
Il y a des phénomènes atmosphériques avec des réflexions du soleil un peu bizarres.
Hein. Ouais, ça c'est le plus petit des cas. C'est 2% les cas de météo, des nuages, des mirages, ouais, des réflexions bizarres de la lumière. On a un petit 3% de drones.
Ah ouais.
5% d'animations lumineuses, des lasers, des feux d'artifice, tout ça.
Les oiseaux.
5% d'oiseaux, bien vu. Alors ça, c'est souvent en photo plutôt qu'en direct. Mais ouais, tu peux... Des fois, un oiseau qui passe à grande vitesse, ça lui fait une forme un peu de soucoupe, là. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Il en reste deux. 10% des cas, c'est des lanternes taille. C'est qu'on lâche en mariage, oui, souvent, oui, une petite mini montgolfière, là, comme ça. Voilà. Et qui vont bouger dans le sens du vent. C'est pour ça que ça, déjà, quand, bon, avec l'habitude, ils sentent bien que tel témoignage ressemble à des lanternes. Et tout de suite, ils recoupent avec les données météo de vent. Ah, si ça bouge dans le sens du vent, ça fait encore une idée de plus, un faisceau de plus pour aller dans ce sens-là. Bon, voilà. Les lanternes chinoises. Et 17%, c'est les ballons. Alors, tout confondu, les ballons sondes, ballons stratosphériques, les ballons festifs quand on fait des lâchers de ballons, hein, comme ça. Voilà.
17%, c'est les ballons.
Ouais.
Wow.
Donc, la part des choses humaines, c'est très grand.
Ah oui, c'est presque ça, quoi. On a 2% de météo et 5 d'oiseaux et d'insectes. Tout le reste, c'est humain. Ouais. Ah non, et l'astronomie à 12%.
Okay.
Sachant cela, et pour continuer un peu à jouer, je vais vous donner rapidement deux témoignages et on va voir si vous feriez de bons enquêteurs et enquêtrices. Ça vous dit ?
Ouais.
Alors, on est à Mayotte. Le 31 décembre 2019, c'est un papa qui raconte. J'étais dehors dans le jardin avec une belle lune et quelques nuages. Un point lumineux, très brillant, attire mon attention. Le point se déplace vers l'est et son éclat s'intensifie. Je vais chercher Marina et Dimitri. J'ai inventé les prénoms parce qu'ils étaient floutés. Je continue. Dimitri se relève avec Marina pour lever les yeux au ciel. C'est sa femme et son fils. Point lumineux brillant qui change de couleur pour passer à l'orange. Visible à travers un nuage qui masque les autres astres. Déplacement rapide, sûrement très haut. Dimitri, convaincu comme moi que ce n'est pas un aéronef commun, pas de feu rouge, vert ou blanc, avec éclat comme sur les jets. Ensuite, il a disparu derrière les nuages éloignés. Donc c'est bien un ovni. Vu l'heure, 2 heures après le coucher du soleil, peut-être la station spatiale en orbite, visible depuis le sol dans certaines conditions, ou un gros caillou de l'espace, ou un débris entrant dans l'atmosphère, ou nos voisins de la galaxie d'en face. Ça a bien plu à Dimitri, qui n'a demandé qu'à être rassuré sur nos vies. Bon, je vous passe toutes ces autres réponses au questionnaire, mais alors d'après vous, qu'est-ce qu'il a pu voir ce monsieur le 31 décembre à 21h, à l'est, un point très lumineux qui se déplace rapidement ?
Un feu d'artifice.
Non. Alors 31 décembre, vous savez, on pense à quelque chose de festif.
C'est le nouvel an, mais non.
Non. Eh bien, c'était Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, mais qui ne se déplaçait pas, on est d'accord ? Mais c'est le déplacement des nuages.
Les nuages qui donnaient l'illusion.
Qui donnaient l'impression que c'était ça qui se déplaçait. Vous en voulez un autre ?
Ah bah
oui. Allez, plus local. Cette fois, ça se passe à Pierrelatte, dans la Drôme. Le 22 juin 2023, 22h50. Ce monsieur qui sortait prendre l'air sur sa terrasse après avoir fini le visionnage de sa série sur TF1. Il a même précisé ce que c'était. Bref. Est très surpris de voir dans le ciel un objet ayant l'aspect d'un gros cigare d'environ 25 mètres de long avec des hublots lumineux alignés qu'il n'a pas compté, mais un peu comme des fenêtres éclairées dans un immeuble et qui circulait du nord-ouest vers le sud-est, lentement, en silence, à la hauteur de vol d'un hélicoptère et qui d'un coup a disparu.
Un Starlink.
Aïe, Starlink. J'aurais dit un satellite ou un truc comme ça.
Ouais. Et bien ouais, après enquête, le GEPAN pense que ce monsieur a été témoin du passage au-dessus de la France d'un train de satellite Starlink lancé le matin même, numéroté train G5-7. La proximité encore importante entre les satellites a créé l'illusion d'un objet unique et sa disparition soudaine est due au passage des satellites dans l'ombre de la Terre. Voilà un peu
plus dur. Allez,
ce que je voulais vous raconter sur le GEPAN. Et ah oui, une dernière chose. Le fond musical que j'ai choisi pour la lecture de ces deux témoignages, c'est l'œuvre de Till Lacine, un musicien français qui a signé la bande originale de la formidable série franco-belge, c'est français mais tournée en Belgique, OVNI, avec un S entre parenthèses, qui dépeint le quotidien et la création du GEPAN avec humour, poésie, romance et même un peu de mystère. Et j'ai vraiment adoré cette série qui tient sur 2 saisons. Et toutes celles et ceux à qui je l'ai conseillé l'ont beaucoup aimé aussi. Donc voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire. OVNI, avec un S entre parenthèses. C'est très drôle et vraiment une bonne série française.
Cool. Merci.
Et pour finir, comme j'avais promis, je laisse le mot de la fin à Célia Pelluet. Et puis je vous remercie pour votre écoute.
Alors, je crois que si on a peur des ovnis, en fait, c'est parce que c'est un peu l'étranger ultime. Mais si les aliens viennent nous rendre visite, on a peur de quoi, au juste ? De la colonisation ? Du grand remplacement ? En fait, on a peur d'être colonisé, alors que la colonisation, c'est plutôt notre truc à nous, à la base. Hein. En fait, on projette notre propre violence sur une altérité imaginaire. On a peur d'être détruit, alors qu'on est déjà en train de s'autodétruire. Parce que franchement, quand on voit les résultats de la dernière COP, si des extraterrestres voulaient nous éliminer, je pense qu'ils se diraient « laissez-les faire ». Ils se font très bien tout seuls.
Voilà pour le GEPAN et pour mon ultime chronique.
Merci Axel.
Ouais, merci.
Est-ce qu'il y a un tout petit pourcentage de potentiel ovni quand même ou...
Non, alors en fait, même sur les 3% qui sont souvent donnés comme cas, comment ils appellent ça, inexpliqués, après enquête, ouais, voilà. Non identifiés après enquête. Déjà là-dessus, sur ce chiffre de 3%, j'ai vu qu'il y avait trois auteurs indépendants du GEPAN, mais qui ont épluché les archives et qui ont dit, en fait, c'est un peu abusé de dire 3%, c'est plutôt de l'ordre de 1%, parce que celle-ci... elle a été expliquée, pourquoi vous la laissez dans cette catégorie, enfin bon, des choses comme ça. Et non, a priori, dans ce qui reste, enfin en fait, personne ne peut vraiment savoir, mais ouais, le mystère reste. Ouais. C'est vrai que je ne suis pas allé lire des cas. Ah si, j'en ai lu un. Oui, j'en ai lu un, mais. Ouais, voilà, on a un témoignage. En fait. Non identifié après enquête, c'est aussi la catégorie D qui a changé avec les années. Y a les cas D d'il y a 30 ans, c'est pas les mêmes cas D d'aujourd'hui. Il faut une consistance forte, ils appellent ça, donc des données fiables et bien décrites et tout ça, et une étrangeté forte aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vraiment pas du tout l'habitude de voir, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans des cas A et B qu'on a pu expliquer. Et là, ça ressemble, mais les données sont un peu différentes, mais ça ressemble. Enfin, voilà. Donc, l'étrangeté maximale et une consistance forte, ça peut faire rentrer dans le cas D.
Merci.
Eh bien, super. Merci, Axel. On va continuer cette émission avec cette fois la rubrique Nouvel Oeil. Et donc, on accueille dans l'émission Silex. Bienvenue.
Ouais, merci. Merci de m'accueillir.
Donc toi, tu es rappeuse.
Ouais, on peut dire ça.
Entre autres.
Auteur, autrice,
comment tu définirais?
De manière rapide, à la base j'écrivais une conférence gesticulée, entre temps j'ai appris à... On m'a amené dans des scènes slam, j'ai appris à rapper, maintenant ça fait un mélange de tout ça. J'aime bien le conte aussi. Voilà, l'écriture et l'oralité en gros,
c'est ce que tu fais.
C'est ça qui me fait kiffer, ouais.
Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à venir participer à l'émission ? C'est quoi ton rapport au ciel pour toi ?
Eh ben, à la base, sur cette émission-ci, j'avais rencontré Axel dans une autre émission, Star des Champs, et donc on avait bugué sur Carl Sagan. Et moi, Carl Sagan, j'avais connu il y a longtemps sa saga là, et elle m'avait complètement émerveillée. Et donc, j'avais choisi le son de Nightwish qui s'appelle Sagan. Et donc, je crois qu'à cette occasion, j'ai appris qu'il y avait toute une émission sur les étoiles. Mmh. Et puis, ici, il se passe plein de choses, un peu grâce à votre équipe, là, entre autres, sur les étoiles, les soirées que vous faites, là, où on peut observer tout ça. En plus, il y avait le drôme à côté, donc j'avais aussi été là-bas, il y avait les astronomes et tout. Enfin, en fait, c'est que ça m'émerveille et aussi que ça me relie à quelque chose de plus grand, on va dire. Et qui m'apaise et qui m'encourage dans ce monde de fou, en fait. Des fois, je me mate un documentaire de l'univers, quoi, quand j'en ai marre des humains. Je trouve que ça fait du bien. Et voilà.
De prendre un peu de recul.
Ouais, et puis de se dire qu'on est vraiment petit et qu'il y a vraiment des choses incroyables qui nous dépassent. Ce côté que ça nous dépasse, en fait, ça... Ouais.
Ok. Et est-ce que toi, tu observes le ciel à l'œil nu? C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Sans forcément, est-ce que tu as une connaissance des constellations, tout ça, ou pas plus que ça?
Ben, la grande ours et la petite ours, quoi, surtout. Okay. Quand j'étais ado, en fait, je faisais des feux de camp avec des amis et on regardait souvent la grande ours et la petite ours, on planait là-dessus. Après, à force de venir à certaines soirées comme ça, je vois à peu près à quoi ressemble... Le W, par exemple, mais tu vois, j'ai pas le nom en tête.
Cassiopée,
c'est sommaire, quoi.
Ok, mais sans forcément connaître le nom des constellations, est-ce que tu passes du temps à observer juste le ciel comme ça?
Il y a des fois où je me prends. C'est assez rare quand même, mais ça m'arrive d'aller sur les remparts et de me dire allez, je vais voir les étoiles. Parce qu'on a cette chance quand même d'avoir les remparts juste à côté, qu'on voit pas mal. Donc, ouais. Ouais, ça m'arrive, c'est rare, mais ouais, ça m'arrive.
Profiter du beau ciel d'Iwa de temps à autre.
Ouais, bah, c'est vrai que ouais. La chance de voir ça.
Ouais. Ok, donc toi, comme tu le disais, tu poses des textes sous différentes formes, que ce soit du slam, du rap, du conte.
Ouais.
Du coup, tu as écrit des textes en rapport avec l'astronomie, ou en quoi l'astronomie, ça nourrit tes textes? Tu te dis que ça te calme déjà de regarder, mais est-ce que qu'après, c'est des thématiques que tu explores dans tes textes ou qui les nourrissent?
Ouais, celui que je vais faire là, il est, en tout cas le démarrage de ce texte-là a clairement commencé en me connectant, on va dire, à ça. Et c'est quelque chose que j'invoque, on va dire, dans mon imaginaire souvent, comme d'autres univers, la forêt ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'inspire des choses. Ouais, je trouve que c'est hyper inspirant en fait comme univers quoi. Et j'ai l'impression que ça me met dans des bonnes vibes quoi. Et d'ailleurs, ça me fait découvrir d'autres choses par rapport à ce que je fais d'habitude. Par exemple, le son que je vais poser là, il ressemble pas vraiment à ce que je fais d'habitude. Il est pas vraiment politisé, alors que d'habitude c'est plus politisé ce que je fais. Mais ça m'amène à explorer d'autres parts de moi-même et de mon rapport au monde que voilà, que j'aime bien.
Ok. Et ben du coup, on va t'écouter. T'es venu nous proposer un morceau avec un instru.
Ouais.
On peut juste avant annoncer qu'on peut venir te voir sur scène le 20, c'est ça?
Ouais, merci.
Samedi
Ce samedi à Andarta, je vais faire ma conférape. Alors, il n'y aura pas ce son-là que vous allez entendre parce qu'il est hors sujet de la conférape qui parle de démocratie et d'écologie. Mais il y aura des raps aussi. Et voilà, bienvenue, c'est à 18h.
Dans Andarta.
Ouais.
Cool.
Le 20.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça marche, le rendez-vous est pris. Alors avant de te laisser le micro, en fait ce qu'on va faire c'est que Silex va nous proposer son texte et on enchaînera directement avec la pause musicale qui est une pause instrumentale. Hein. Comme ça, ça laissera un petit peu résonner tes mots et on pourra s'en imprégner. Cette semaine, la pause musicale c'est un morceau de EDB Manu. Manu qui fait partie de Vite Chien Rouge. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'émission et puis en particulier qui sont venus à Marignac, Vite Chien Rouge c'est un groupe de musiciens qui nous accompagne depuis quasiment les premières soirées astro qu'on a pu organiser et qui sont venus poser à chaque fois de belles ambiances électro-ambiantes. Voilà, donc on voulait aussi saluer Vite Chien Rouge, hein, tout le travail qu'ils ont fait avec nous, que ce soit musicalement, mais aussi toute la rencontre humaine, on a vraiment apprécié. Donc Anthony, Manu et toute cette équipe, Vince aussi, voilà. Donc après Silex, ce sera EDB Manu avec le morceau Moment. Et maintenant Silex, c'est à toi.
Allez, il s'appelle Touchous et l'instru c'est Le Grand Jeu. Ici, le ciel nous prend sous son aile. On tiendra la barre dans le vent. Ici, le ciel nous prend sous son aile. Des spirales splendides nous font signe. Le chant des étoiles nous guide. Les sages du passé sifflent dans nos sillons. Nos sillages s'en sont inspirés. Et à ce qui paraît, si on y pense, force à s'évapore dans l'atmosphère. On se fie à notre boussole. Tout est possible quand on espère. On se perd pas, même quand on sait pas où on va. Regarde bien au fond, c'est sûr, ça se voit sur nos figures.
Témoignage télé en héritage, tisse la toile des nuages. Dans le silence de la brume, nous font passer l'amertume. La syntaxe des comètes nous enseigne, fixe les ficelles du soleil. Saute à pieds joints dans l'éternel, la chute des nuages. Précipitamment, nous parle en images. Chahute avec l'instant, c'est renversant. Ça monte et ça descend, c'est cyclique, c'est sismique, c'est. 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 Notre espèce depuis des siècles marche sur des plaques tectoniques sous le regard des cieux. Est-ce si hasardeux ? C'est cyclique, c'est sismique, c'est. C'est cyclique, c'est sismique, c'est. C'est océanique, c'est peut-être même magique. La chute des nuages précipitamment nous parle en images et finalement s'approche doucement quand on s'isole en nous chuchotant sereinement que de tout temps, par tout âge, existent d'autres rivages. D'autres rivages, d'autres rivages. Quelques bras jusqu'à la plage, on boira peut-être la tasse, mais sous nos pieds les coquillages. Allez, nage. Observe le grand large. Terre nourricière, relation sincère. Du partage en paysage. Y'en a qui l'ont vu, y'en a qui essayent. Je t'assure, c'est pas un mirage, ça peut se faire. Et c'est même partout dans l'air. Alors on s'y jette, on y chante, à tue-tête, on continue coûte que coûte, malgré les bâtons sur la route. La peur peut toquer à la porte, peu importe, on tiendra la barre dans le vent, on tiendra le choc au centre de la tornade, on traversera le temps, t'inquiète, on captera toujours la terre-mer sous nos pas. Le monde dans son ellipse depuis des lustres, ça pulse, le plancton danse, oui le grand large est immense, les poissons s'enroulent en torsade dans les hélices du courant, les forêts se réenracinent après l'ouragan. Nous, la mousse des vagues nous pousse, surfer sur le souffle, on kiffe ça. On avance pas à pas, on lève le pouce, et même dans la brousse, en short, toujours on se déplace, on trace. Touchous.
et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors c'était le morceau Moment par EDB, vite chien rouge, un petit remerciement et même gros remerciement. Et puis juste avant c'était Silex avec son texte inspiré par le cosmos.
Ouais, c'est ça.
Merci à toi.
Ouais, merci à vous.
Carl Sagan, oui, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Surtout Axel, qui aime beaucoup le travail de
gros
cet
fan.
Homme.
Ah ouais.
Très, très fan. Ouais.
Voilà, bon, on va continuer le déroulé de cette émission et on va passer à la chronique spatiale où cette semaine, Pierrick, tu vas nous parler de la rencontre entre Apollo et Soyouz.
Et oui, ce grand moment du spatial où la rencontre du vaisseau Apollo et du vaisseau Soyouz. Donc la rencontre entre les Américains et les Soviétiques. Donc là, on est fin 1970 et il y a un petit moment de détente dans ce qu'on appelle la guerre froide. Donc la guerre froide, c'est un peu cette confrontation entre sans guerre, hein, entre l'URSS et les États-Unis, oui, technologique, politique,
idéologique.
Idéologique. Deux blocs s'affrontent un peu par différents moyens, dont la conquête de l'espace était un grand moment, et du coup, fin 70, on est après les missions Apollo, donc après les premiers pas sur la Lune. Et il y a un moment de détente, donc ils signent des accords pour mettre fin à l'armement nucléaire. Enfin, non. Ils arrêtent de produire des armes, parce qu'ils en ont tellement accumulé, au bout d'un moment, ils disent, bon, on a de quoi tout faire péter 14 fois, donc on va signer un accord pour arrêter là. Donc entre Brejnev et Nixon, ils signent ce fin de l'armement nucléaire. Et c'est un peu la fin de la course à l'espace, puisque les Américains ont mis le pied sur la Lune et les Russes ont un peu lâché l'affaire à ce moment-là. Donc voilà, il y a un petit moment comme ça. Et il y a l'idée qui émerge à ce moment-là de faire une espèce de rencontre diplomatique dans l'espace. Donc c'est assez symbolique, même si on va le voir, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais dans l'idée, voilà, c'est de se faire rencontrer dans l'espace des Américains et des Soviétiques. Et à cette époque, le budget de la NASA, voilà, et suite aux missions Apollo qui ont coûté très très cher à la NASA, et le budget était fortement réduit. Il faut savoir qu'il y avait 20 missions Apollo prévues à la base, et à la 17e, ils se sont arrêtés. Parce que faute de budget, au bout d'un moment, on arrête. Et donc, voilà, ça c'était un truc pas trop cher. Et ils se sont lancés là-dedans. Donc il y a quand même une méfiance mutuelle. Hein. Faut pas s'attendre non plus à trop de connivence, mais quand même, ça se passe bien. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'amarrer deux vaisseaux bien différents dans l'espace, donc un vaisseau Soyouz et un vaisseau Apollo. Donc c'est vraiment le même vaisseau qui est allé sur la Lune. C'est le vaisseau Apollo, voilà. Qui doit s'accrocher à un vaisseau Soyouz. Mais il y a un petit problème.
Alors, la NASA, du coup, maîtrisait déjà les techniques de rendez-vous, les manœuvres qu'on appelle de rendez-vous orbitaux. Les Russes aussi,
et les
à
Russes,
ce moment-là.
Ouais, ils ont développé ça avant le programme Apollo, justement, pour aller sur la Lune. Ils étaient obligés, tu sais, d'envoyer le vaisseau Apollo en espace et de faire une manœuvre de retournement pour accrocher le LEM. Donc oui, le LEM, c'est vraiment celui qui s'est posé sur la Lune.
Oui.
Et après, justement, le LEM, il remonte, il se raccroche au vaisseau Apollo de la Lune et il repart sur Terre. Et donc, oui, ils maîtrisent ça. Et les Russes, c'est pareil, parce que les Russes, ils ont pris de l'avance sur les stations.
Ah,
sur
oui.
les stations spatiales. Il n'y a pas encore Mir, mais il y a les stations Salyut, dont j'ai parlé dans une émission.
Je veux savoir laquelle.
Donc voilà, les deux maîtrisent ça et à l'époque, c'est les deux seules nations qui sont capables d'envoyer des êtres humains dans l'espace. Voilà, c'est précision. Mais il y a un problème parce que le vaisseau Apollo est c'est un peu une prise mâle et il s'accroche dans un vaisseau, le LEM là, enfin un autre vaisseau qui doit être femelle en l'occurrence. Et le Soyouz, eh ben c'est pareil. Et du coup, personne veut être la femelle. Donc ça coince. Bon, c'est puéril, hein, mais c'est comme ça. Personne ne veut faire ça. Du coup, bon, quand même, il se démotive pas. Il se dit bon, bah, on va faire autrement. Et il décide de faire un port d'amarrage androgyne. Une espèce
de port-plat.
Ouais, de port-plat qui s'emboîte en venant l'un par-dessus l'autre, un peu une espèce de tulipe. Les Russes qui conçoivent ça, une espèce de tulipe qui se referme comme deux mains qui s'accrochent. Et donc voilà, le problème, ce problème-là est à peu près réglé. Mais il y a un problème de pression. Chaque vaisseau a une pression intérieure différente. Donc on ne peut pas juste accrocher les deux vaisseaux et ouvrir le sas. Ça ne marche pas, la pression est différente. Donc ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, on crée un module de jonction. Un module en plus que les Américains transporteront. Un peu comme ils ont transporté le LEM pour aller sur la Lune. Et ben, à la place, ils mettent ce module de jonction qui permettra d'adapter la pression en fonction du vaisseau où ils veulent aller. Ils ne peuvent pas tout ouvrir. Il faut que si, par exemple, ils s'accrochent au vaisseau, au Soyouz, eh ben, il faut que les Américains aillent dans le module de transfert, ferment la porte de leur vaisseau, adaptent la pression au module russe, les Russes ouvrent la porte et là, ils se rencontrent. Ou inversement, il faut que les Russes aillent dans le module de transfert, adaptent la pression au module américain, ferment la porte. Enfin, on peut pas tout ouvrir et voilà. Et donc, c'est les Américains qui transportent ce module, comme un peu ils ont transporté le module LEM pour aller sur la Lune. Et donc, avec ce port androgyne de l'autre côté pour s'accrocher au vaisseau Soyouz. Alors, dans l'équipage américain, il y a trois personnes. Il y a Tom Stafford. Alors lui, c'est un ancien du programme Apollo. Il a fait Apollo 10. Apollo 10, c'est c'est juste avant Apollo 11, hein, c'est avant qu'il pose le pied sur la Lune. Donc Apollo 10, c'était vraiment le dernier galon d'essai pour les missions Apollo. Et eux, ils ont frôlé la Lune. Ils ont dû aller à quelques centaines de kilomètres du sol et repartir. Donc il était vraiment très proche de la Lune. Avec lui, il y a Dick Slayton. Alors lui, il a une histoire particulière. Il a été recruté il y a très longtemps, il y a plus de 16 ans avant 1975. Et il a été recruté pour faire les premiers vols Mercury même, je crois. Mais ils se sont rendus compte qu'il avait un problème cardiaque. Du coup, il a jamais volé dans l'espace. Sauf à ce moment-là, quand même, ils ont décidé de le faire voler. Et en fait, ça a été le témoin de tout le programme Apollo. Oui. Il a même été patron des astronautes pendant longtemps. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, mais qui n'est jamais allé dans l'espace pour cause de problèmes cardiaques. Mais là, pour cette mission-là, ils ont dit, allez, ok, vas-y. Avec eux, il y a Vince Brand. Donc pour lui, c'est un jeune astronaute, c'est son premier vol. Donc ça, c'est pour le côté américain. Côté soviétique, on a Alexei Leonov. Donc ça, c'est l'espèce de légende de l'URSS. C'est celui qui a fait la première sortie extravéhiculaire, le premier marcheur de l'espace. C'est le premier qui est sorti dans l'espace en combinaison. Donc c'est un peu une légende hein, de ce côté en Russie, quoi. Et avec lui, il y aura Valérie Kubasov. Alors, comment se déroule ce programme? Donc en 1973, ils se rencontrent en Suisse, au Salon du Bourget. Ils font une première rencontre et ils s'entendent bien, ça se passe bien. Alors après, ils vont faire des entraînements. Les Américains vont à Moscou, les Russes vont aux USA. Et là, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une vraie différence culturelle. Hein. C'est énorme. On voyageait moins que comme maintenant. Et il y avait moins la communication de maintenant, tout ça. Donc pour les Russes qui vont aux États-Unis, c'est vraiment un choc de voir toutes ces bagnoles, tous ces magasins, tout ce qu'ils peuvent acheter. Pour eux, c'est incroyable. Ils ont pas ça en URSS. Et pour les Américains, c'est pareil. Ils découvrent plein de nouvelles choses. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, ils décident que les Russes parleront anglais et les Américains parleront russe. Donc ils apprennent les langues chacun pour le voyage. Et donc en juillet 1975, le vol démarre, donc le Soyouz décolle en premier. 7 heures plus tard, le vaisseau Apollo décolle sur la dernière Saturne V. C'est vraiment la fin du programme Apollo, quoi. Et donc, il fait sa manœuvre de retournement pour s'accrocher au module de jonction. Et là, il y a tout un truc. C'est pas si évident que ça, de rencontrer deux vaisseaux qui partent de points bien différents pour se retrouver dans l'espace. Parce que c'est pas si évident. Il y a la hauteur, il y a... c'est complexe.
L'inclinaison de l'orbite, tout
ouais,
ça. Ouais.
La vitesse. Donc, il y a un petit balai céleste, là, de rencontre orbitale. Et alors, ils s'approchent tout doucement, ils s'approchent l'un de l'autre. Et là, Leonov, donc le russe, il distingue Tom Stafford par le hublot. Ils se font coucou. Et l'amarrage se passe bien. Les premiers à passer, c'est les Américains qui passent du côté russe, qui sont accueillis à bras ouverts par les Soviétiques. C'est vraiment la bonne franquette. Et là, tout est diffusé en direct. Hein. C'est un grand moment de télé. Hein. C'est tout le monde, est, pas comme l'émission Apollo, mais quand même, c'est un grand moment de réconciliation. Ouais. Pour ces, dans les années 60, on a quand même frôlé la guerre nucléaire plusieurs fois. Donc, je pense que tout le monde est soulagé, content de voir qu'on peut faire autrement et que la paix est là. Le russe, il fait une petite blague, il sort une petite bouteille de derrière le siège. Il dit « Ah, j'ai ramené de la vodka !» Et non, c'est une blague, c'est pas de la vodka, c'est du bortsch. Un liquide, un plat russe classique. Et du coup, voilà, ils alternent un peu les rencontres, ils s'échangent des poignées de main, ils signent des documents, ils prennent des photos, ils parlent au président... Voilà, il y a toutes ces choses. Ils volent aussi en formation. Alors, ils volent les uns à côté des autres. Après, il y en a un qui se met devant le soleil et puis qui cache le soleil. Du coup, les autres, ils peuvent observer le disque du soleil. Voilà, ils s'amusent un petit peu comme ça, un petit temps. Et après, chacun rentre chez soi, bien gentiment. Sauf que le vol russe se passe bien, ils atterrissent bien, pas de problème. Par contre, le vol US a failli très très mal terminer. Ils ont eu un problème, du gaz toxique qui s'est mis dans le vaisseau et qui a failli les intoxiquer.
Et, c'était le bortsch.
Peut-être. Et du coup, ils sont pas passés loin d'être intoxiqués. Ils étaient assez dans les vapes en fait, à l'atterrissage. Ils ont pas pu appuyer sur des boutons. Et ils sont atterris à l'envers. Heureusement, Tom Stafford, le commandant, a appuyé sur le bon bouton pour gonfler des bouées et retourner le vaisseau dans l'eau.
Oui.
Et ils ont pu ouvrir la porte et respirer. Et après, bon, ça, tout va bien. Mais ça a failli mal se passer. Et il y a une petite anecdote aussi, c'est donc le russe Leonov qui rentre et qui, donc, du coup, ils atterrissent dans le Kazakhstan. Après, il prend un avion pour aller à Moscou. Et à l'arrivée de ce vol, il y a quelqu'un qui vient lui dire en surprise qu'il est promu général. Voilà, donc c'était grande surprise pour lui. Après, ils font une grande tournée mondiale. Ils sont accueillis partout. Et voilà, ils sont... tout le monde voilà, relaie cette information qui est quand même le début. Ça, je vais souligner de
la collaboration.
La collaboration internationale dans l'espace. Un peu plus tard, une navette US ira s'amarrer sur Mir, donc la station de l'époque, la station soviétique de l'époque. Et finalement, un peu après, il y a l'ISS, qui sera une grande coopération internationale. Et voilà, ça, cette mission a été vraiment le premier d'une collaboration qui dure toujours. Et qui englobe le monde, en fait. Maintenant, dans l'ISS, un peu tout le monde a sa petite part, plus ou moins.
Le monde de l'hémisphère nord, un peu, mais,
ouais.
Mais
oui. Que les Chinois qui jouent un peu à part, mais quand même, voilà. Qu'on ait une petite planète et que tout le monde se retrouve dans l'espace, c'est quand même un beau message. Même Leonov, qui il dira après, qui est quand même le premier mec à être sorti dans l'espace en combinaison, c'est quand même pas rien. Il dira, ma mission la plus belle que j'ai faite, ça a été cette rencontre Apollo-Soyuz, parce qu'ils ont pu vraiment nouer des liens avec les Américains. Ils étaient toujours potes jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Leonov, il est mort en 2019, et Tom Stafford, il est mort en 2024. Donc, ils ont vécu un bon moment, et ils ont pu se revoir plein de fois. Et... Et quand on voit les interviews, ils ont l'air heureux de se retrouver et de parler de ça. Voilà.
Trop bien. Bah, je suis contente d'entendre cette histoire, moi. Dans ce monde, c'est encourageant, quoi.
Ouais.
Ça fait un peu penser au dialogue interreligieux, je trouve. Vite fait. C'est un autre domaine, mais...
Le dialogue interreligieux,
c'est...
C'est des événements où il y a plusieurs personnes de différentes religions et qui font des choses ensemble.
Ah, ok.
Ouais.
Ah ouais,
dans la différence, ils essayent de faire commun.
Ouais, super.
C'est vrai que le spatial, il y a cette tradition depuis les années 60 de collaborer. L'ISS, on considère que c'est acquis. Mmh. C'est vrai qu'il y a toute une époque où ce n'était pas du tout évident d'imaginer des cosmonautes de différentes nationalités, en particulier russes et
américains,
ensemble à faire des projets communs. Quoi, parce que ce n'était pas vraiment le propos au départ.
Non, oui.
Donc, peut-être de l'espoir.
Et alors, si j'ai bien compris, ils ont vraiment failli mourir. À quelques minutes près, ils n'avaient plus d'air.
C'était les Américains. Ils ont eu un gros problème.
Ça s'est joué à peu, quoi.
Une fuite de gaz.
Ça s'est joué pas grand-chose.
C'est chouette qu'ils aient... Enfin, ça apporte encore plus de... Ouais, c'est fou, quoi. Ouais.
Et puis, ça aurait vraiment terni le beau tableau qu'on nous a dépeint.
C'était un grand moment de...
Trop bien.
Spatial.
Merci Pierrick. On va terminer cette émission avec la chronique astrale. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler de Kepler. Donc Johannes Kepler. Alors un nom qui est quand même familier à tous ceux qui et à celles et ceux qui s'intéressent à l'astronomie. Et j'avais envie aussi de vous parler en particulier d'un petit ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle « Le songe ou l'astronomie lunaire » qui est paru au début du XVIIe siècle et qui est considéré comme, on peut dire, la première œuvre de science-fiction, en tout cas en Occident ou même ailleurs, première œuvre de science-fiction. D'ailleurs, souvent on dit le premier roman, c'est Don Quichotte, les gens... analyse un peu les productions littéraires comme ça. Et Don Quichotte, on est en 1500 et quelques. Donc là, on est en 1615. Donc voilà, la science-fiction qui naît 100 ans plus tard. Bon, on va voir un petit peu ça. Déjà, je veux parler de Kepler. Alors, j'ai décidé de pas m'étendre plus que ça sur les aspects un peu biographiques du personnage. Je vous renvoie à Wikipédia ou à ce que vous voulez. Et donc, j'ai plus envie de le replacer dans la succession de certains grands noms qui ont contribué en fait à amener la vision de l'astronomie moderne, et c'est surtout là-dedans qu'il est intéressant, Kepler. Donc lui c'est un Allemand qui est né en 1571 et qui est mort en 1630. Donc ça place un petit peu la période, et il est surtout connu pour avoir découvert les relations mathématiques qui régissent le mouvement des planètes sur leurs orbites, donc dans le système solaire. Donc c'est ce qu'on appelle les lois de Kepler, les trois fameuses lois de Kepler, pour ceux qui ont fait un peu de physique. Donc c'est extrêmement connu, c'est toujours valable. Et il les a trouvées donc en, me semble, 1620, autour de ça. Il était le mathématicien royal en Allemagne. Et il était aussi astrologue. Donc là, ça anticipe, on a déjà parlé des liens entre astronomie et astrologie. La plupart des astronomes du Moyen-Âge, en fait, étaient avant tout astrologues, en réalité. C'était ça qui était leur gagne-pain à la cour des rois. Mais ça anticipera un petit peu aussi sur le débat qu'on fera dans la prochaine émission sur la science. En tout cas, lui, le travail de Kepler, c'est un mathématicien, c'est pas vraiment un astronome. On est c'est un astronome au sens où il s'intéresse au ciel. Mais c'est un mathématicien et il s'est beaucoup basé en fait sur les observations d'un certain Tycho Brahe qu'on a déjà eu l'occasion de mentionner.
C'est un voisin, non ? Il est danois.
Il était danois, ouais, tout à fait. Et en fait, Tycho Brahe, lui, pour le coup, a passé sa vie avec un certain nombre d'élèves, apprentis, à observer le ciel. Donc non pas avec des télescopes à l'époque, mais en fait des mesures d'angle, des mesures de position sur les étoiles et sur les planètes. Et donc c'est à partir de toutes ces observations que Kepler a cherché des lois mathématiques pour décrire le mouvement des planètes dans le ciel et les a trouvées. Alors, Là où c'est un petit peu intéressant, c'est de replacer ça dans le contexte de l'époque et du XVIe siècle. Donc, je vous ai déjà parlé, par exemple, d'un certain Giordano Bruno, dans une émission relativement récente, qui lui est mort en 1600, donc qui vient un tout petit peu avant Kepler, et qui, en fait, lui-même succédait à un certain Copernic. Donc là, vous me voyez venir, hein, c'est en fait le moment où on a redécouvert le fait que les planètes ne tournent pas autour de la Terre, mais bien autour du Soleil, et qu'on est passé d'une vision géocentrique du monde à une vision héliocentrique. Mais tout ça ne s'est pas fait sans heurts. Donc j'avais envie de rappeler un petit peu ça, c'est que depuis très très longtemps, on était basé sur les idées d'Aristote. Donc Aristote, un penseur grec extrêmement influent, et qui en fait, lui, plaçait la Terre au centre de tout, et une Terre immobile. C'est ça aussi qui est important. On a une Terre qui ne bouge pas, qui est au centre de l'univers, et puis tout qui tourne autour. Et il y avait quand même à l'époque un certain Aristarque de Samos, qu'on a déjà mentionné aussi. C'est lui qui, à l'époque, avait mesuré... Donc on est avant Jésus-Christ, hein, il avait réussi à mesurer le diamètre de la Terre, à mesurer la distance Terre-Lune, donc avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire un peu de géométrie et puis des ombres portées par un bâton et des mesures à certains moments de l'année. Donc c'était quand même des trucs qui étaient assez, extrêmement ingénieux pour l'époque. Et lui, il avait cette idée déjà que effectivement c'était le Soleil qui était au centre du système solaire et pas la Terre. Mais contrairement à ce qu'on peut éventuellement penser, c'était pas du tout une idée acquise dans tout le monde antique que la Terre, que le Soleil était au centre du système solaire en fait. Il y avait déjà l'identification des planètes puisqu'on les voyait, se balader sur le fond du ciel. On avait bien compris qu'il y avait quelque chose là qui était différent des étoiles. Mais de là à dire qu'en fait, ne serait-ce que dire qu'en fait c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien la Terre qui tourne autour du Soleil, c'était pas une évidence puisque ça contrariait l'expérience quotidienne où on voit en fait le Soleil tourne autour de nous en apparence. Donc en fait, quand Copernic arrive en 1530, il y avait eu que quelques Grecs avant il y a un peu moins de 2000 ans qui avaient eu cette idée, mais l'idée du système donc dit copernicien avec le Soleil au centre, même si comme j'ai dit les Grecs ont eu ces petites intuitions là. Il a commencé à vraiment émerger dans les esprits à partir de Copernic. Donc Copernic, j'en avais un petit peu parlé au moment où j'avais parlé de Giordano Bruno. Donc c'est 1530. On peut rapprocher la date, je trouve, de 1492 quand même. Enfin, l'idée vraiment de la découverte d'un nouveau monde. Il y a tout un courant de pensée, en fait, à ce moment-là, au XVIe siècle, qui arrive et qui renouvelle tout, quoi. Et qui, d'ailleurs, donnera lieu à ce qu'on appelle la Renaissance. Et donc une fois que Copernic, j'avais mentionné, lui, il avait ces idées-là, mais il n'était pas complètement sûr de lui. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas réellement publié ses travaux avant sa mort. Donc il n'a pas eu de problème, puisqu'il ne s'est pas opposé au dogme de l'Église. Ouais. Mais par contre, ses idées, elles ont déjà commencé à diffuser, même s'il ne l'a pas officiellement publié. Et en particulier, elles ont été portées par Giordano Bruno. Donc je vous renvoie à l'émission que j'avais consacrée, qui était... qui était quand même un sacré personnage, et qui s'est opposé à peu près toutes les religions européennes jusqu'à se faire excommunier de toutes les religions dans toutes les capitales pour ses idées.
Il a pris la tête à tout le monde, lui. Hein,
il a pris la tête à tout le monde, mais en même temps, quand on regarde avec le recul, on en avait parlé, hein, il avait raison, en fait, sur énormément de choses, quoi. Donc on a ce Giordano Bruno et puis on a donc Kepler avec Tycho Brahe qui arrive juste derrière et qui reprend les idées en fait de Copernic et qui va en fait lui par contre commencer à faire les mathématiques et c'est là qu'il annonce en fait Newton qui arrive juste derrière parce que Newton enfin déjà Galilée 1610. On rappelle, c'est là que c'est 1610 la première fois que Galilée pointe une lunette sur le ciel. Et donc, c'est la naissance de l'astronomie au télescope, en fait. Hein. Donc là, c'est quand même un énorme pas. Et ensuite, arrive Newton avec ses lois de la gravitation en 1687. On a déjà parlé aussi de Newton. Donc, Kepler, il se situe avant Newton, à peu près à la même époque que Galilée, un peu après Copernic. Et il est dans cette mouvance, en fait, qui va faire passer le monde, en fait, du géocentrisme à l'héliocentrisme, et qui va faire passer, en fait, l'astronomie de l'astrologie à quelque chose de mathématique et avec de la physique, en fait, grâce à Newton. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, c'était un des gros succès de Newton, c'est que quand il a sorti sa loi de la gravitation universelle et qu'il a sorti un peu donc la mécanique newtonienne, eh ben en fait, de ces lois, il retrouvait les lois de Kepler, que Kepler avait trouvées de façon géométrique, empirique, à partir des observations de Tycho Brahe. En fait, Newton retrouvait ces résultats-là qui découlaient des équations plus générales que lui avait posées. Donc il y avait aussi quand même une unité dans tout ça, qui se dégageait et qui montrait que tout ça allait bien dans la bonne direction. Donc voilà un peu pour l'apport scientifique de Kepler sur le débat en astronomie, et elle est quand même assez importante. Alors maintenant, on va passer à ce dont j'avais aussi envie de vous parler aujourd'hui, qui est ce petit livre qui s'appelle Le Songe. Alors le truc, c'est qu'il n'a été réellement publié qu'après sa mort. Mais à partir des années 1610, il commençait à y avoir en fait des copies qui ont un petit peu circulé. Et il se trouve que parallèlement à ça, Kepler, dans la vraie vie, en fait, sa mère a été accusée de sorcellerie, comme un certain nombre d'autres femmes dans le village duquel il vient. Et en fait, il a passé plusieurs années, donc 6 ans en fait, à défendre sa mère, donc à apprendre le droit canon pour essayer de lutter contre les autorités ecclésiastiques de l'Inquisition. Et finalement, il a réussi à faire libérer sa mère, ce qui est relativement rare dans les procès pour Inquisition. Et le truc qu'il a trouvé, c'est que finalement, elle a été libérée pour non-respect des procédures judiciaires correctes dans l'utilisation de la torture.
Avec un vice de procédure.
Un vice de procédure. Elle a été mal torturée d'une façon non légale, donc le procès est annulé. Ce qui est quand même ce qui en dit long sur l'époque quoi. Oui. Voilà, bon, c'était pour la petite histoire. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement du Songe. C'est un ouvrage qui fait une vingtaine, 20-30 pages, et qui est coupé. En fait, il y a Kepler qui dit « Je suis allé à la foire, j'ai trouvé un livre étrange, je suis rentré, je l'ai lu, puis je me suis endormi, j'ai fait un rêve. » Donc voilà, il place dès le départ l'idée qu'il est en train de rêver et qu'il nous raconte des trucs. Et il imagine qu'il est le fils d'une sorcière, justement, d'une femme qui vend des sachets, des potions, des choses, donc il se place en Islande, ou je sais plus, il est dans un endroit comme ça. Et en fait, lui, il est l'enfant de cette femme, et en fait, elle fait des petits sachets pour les vendre, et lui, en fait, il fait pas attention, il casse un des sachets. Du coup, la mère est pas contente, elle devait vendre ce sachet au capitaine d'un bateau au port. Et du coup, pour quand même gagner de l'argent, bah, elle vend son fils au capitaine. Et donc, il se retrouve sur le bateau.
Ouais, mais logique.
Il se retrouve sur le bateau, tatatitatata, et là, il se retrouve donc au Danemark à rencontrer Tycho Brahe, à apprendre l'astronomie avec Tycho Brahe, à observer. Et donc, il reste plusieurs années à l'étranger. Il acquiert la connaissance de l'astronomie, et puis il revient, et dans son pays natal, il retombe sur sa mère. Et sa mère est très contente de le revoir. Bon, apparemment, elle n'a pas trop de remords par rapport à ce qui s'est passé, mais elle est surtout enchantée qu'il ait pu acquérir de la connaissance, et elle cherche à comparer sa connaissance avec la sienne. Et elle lui dit, mais moi, dans ce que je fais, j'ai commerce avec des démons, dont certains voyagent jusque sur la Lune, dans un pays qui s'appelle Levania. Et donc, elle convoque ses démons, et ensemble, en fait, ils utilisent l'ombre portée de la Terre qui va jusqu'à la Lune pour voyager jusque là-bas.
Ah ouais.
Et ça, c'est bon, voilà, c'est le début. Et ensuite, il y a une deuxième partie où, alors là, sincèrement, faut s'accrocher, mais Kepler, en fait, là, ne parle que de science. Et il parle que des mouvements, en fait. Et c'est, bon, je vais pas m'étendre. C'est assez difficile à suivre, ou même parfois à comprendre ce qu'il veut dire. Mais il met en place toute la géographie, en fait, de la Lune, entre la Lune, la Terre et le Soleil, en se concentrant sur les éclipses. Mais du coup, il explique comment tout ça, ça tourne. Et donc, forcément, en faisant ça, il va à l'encontre du dogme dominant de l'Église, puisqu'il dit que la Terre tourne, puisqu'il dit que le Soleil est au centre. Donc, sans le dire directement et à travers une œuvre de fiction, il cale toute la mécanique céleste connue de l'époque dans son livre. Et puis termine une dernière partie où là il imagine la vie en fait, il imagine des créatures vivantes, alors tout un délire, parce que pour lui il y a des océans, il y a toute une circulation atmosphérique, il y a tout un tas de trucs. Je vous laisse découvrir, c'est un petit livre qui est assez étonnant. De là à parler de roman de science-fiction, faut peut-être pas s'emballer, mais effectivement, on est dans un truc, dans un récit imaginaire. Mais il y a clairement la volonté chez Kepler quand même de faire passer une science du système solaire pour ses contemporains. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur Kepler. On va s'arrêter là pour cette semaine. On vous souhaite de belles observations et à la prochaine fois pour la dernière émission de l'Étoile polaire.
Et un bon dimanche.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Sur RZWA, bien sûr.